14h15, on commence l'émission du coup, spéciale 13-12.
Et on est ensemble pour 4 heures. Il y a plein de personnes dans le fumoir où on est, parce qu'on est installé dans un fumoir. Et voilà, ça lance bien la période des fêtes. Hein. On vous souhaite à tous et à toutes un joyeux 13-12. Vas-y,
ouais, bah peut-être un peu pour parler du programme de la journée ici. Alors de 15h à 17h, il y aura une discussion ouverte pour les personnes concernées par les violences policières, donc pour partager une ou plusieurs perspectives avec un apport de matière, de contenu situé pour déconstruire le langage dominant et circonscrire notre manière d'agir. Donc voilà, la thématique générale de cette discussion, c'est 13-12, tout le monde déteste la police, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'abolir ?
Il me semble qu'il y avait aussi une autre question centrale aujourd'hui qui était comment est-ce qu'on fait pour rendre justice et qu'est-ce que c'est rendre justice ? Donc je pense que tous les intervenants et intervenantes qui vont passer derrière ces micros pourront se retrouver derrière cette question.
Et en fait, on n'est pas toute seule ici, on est avec un collectif qui s'appelle La Bougie. Ben, bonjour à vous. Je vais vous passer mon micro.
Plein de micros, je vais vous passer mon micro aussi.
Bonjour, bonjour.
Salut, bonjour.
Bon bah du coup, nous, on est le collectif de La Bougie et on est très contents d'accueillir toute cette journée ici.
On va peut-être se présenter succinctement. Alors en fait, on est un collectif de copains et de copaines qui se sont retrouvés soit par nécessité, soit par engagement politique dans un squat, en fait, un lieu qu'on a trouvé au fond d'une impasse il y a bientôt un an, pas encore tout à fait. C'est bientôt l'anniversaire et c'est cool tout ce qui se passe et l'idée en fait c'est de se réapproprier un espace vide et de le mettre à disposition.
Oui, je pense qu'il y a pas mal de projets derrière ce collectif là. À la fois c'est un collectif qui veut se baser et baser ses actions à partir de lieux anciennement vides qu'on récupère et qu'on réinvestit et qu'on laisse aussi à disposition. Et voilà, ça peut être des choses qui sont toutes simples. Ici, on a de l'aide au devoir, on a des cours de danse, des moments de partage de savoir, d'échange. On a aussi un atelier vélo qui se monte depuis quelques mois maintenant. Voilà, après, au-delà de pas mal d'activités régulières, type des cours, des moments de partage de savoir, des grosses cantines, des brocantes gratuites et j'en passe. On essaye aussi de faire un taf plus directement politique ou en tout cas plus classiquement reconnu comme politique qui se base sur des discussions, des réflexions, des partages d'informations et d'expériences. Par rapport à plusieurs sujets. On a fait un petit cycle là dans le cadre du Coucou Puissant, par exemple, sur la gentrification et les transformations urbaines. En ce moment, là, on base un peu plus nos réflexions sur tout ce qui est violence policière, dont on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, on fait appel à plein de collectifs et de personnes qui sont principalement concernés. Voilà un peu des exemples de ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on aimerait continuer à faire à l'avenir.
Ben merci pour cette présentation. Je propose qu'on s'écoute un petit son pour commencer. Alors on a mis en place une playlist ici à La Bougie avant l'émission, donc sur le thème 13-12 bien sûr, et on a récolté plein de sons. Très sympa, et on va commencer par KRS-One Sound of the Police, et on se retrouve juste après.
Let's go. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound.
You know.
de retour toujours donc sur la radio fumoir, parce qu'on est dans un fumoir, et pour le donc la radio du 13-12, je vais y arriver. Et voilà, il y a qui nous ont rejoints. Bonjour à vous. Eh ben, donc vous avez organisé la journée aujourd'hui.
On a remis des gens ensemble.
Vous pouvez un peu nous dire qui est là, qu'est-ce qui se passe en bas, parce que nous on est en haut, du coup on voit pas ce qui se passe.
Mais en bas, il y a l'accueil, il y a la bouffe, deux trucs très importants. Et à côté, on a invité quelques copains et copines qui ont ramené des petites distros avec des autocollants un peu marrants, un peu militants, qui sont affichés dans la rue. Et à côté, on a invité l'Observatoire de Europe Est, de ACABMAB. Et c'est en carte avec toutes les graffitis et les tags ACAB partout en Europe de l'Est, ouest.
Du coup, pour compléter ce que vient de dire mon camarade, mon ami, on a aussi un étage. Et à l'étage, on va essayer, bah, comme tu disais tout à l'heure, de se mettre ensemble et de réfléchir un peu à ça veut dire quoi, en fait, rendre justice. Comment est-ce qu'on peut s'organiser par rapport à ça? De qui on a besoin et de quoi on a besoin?
Ouais, et du coup, par rapport à ça, tu avais déjà organisé donc, un cycle, donc la Unbuilt School, au décor-atelier. Et on écoutera après, d'ailleurs, un petit résumé de ce cycle. Donc, il y avait des cercles de parole, il y avait des ateliers d'autodéfense. Et ouais. Comment tu t'es prise pour organiser tout ça?
Eh bien, écoute, en fait, ma réflexion sur la violence policière, elle est en train d'évoluer beaucoup. Quand on a commencé au décor atelier, tu étais là, c'était full témoignage, donc on a beaucoup pleuré, on était vraiment triste et c'était vraiment chaud. Une fois qu'on témoigne, bah, on peut passer entre guillemets, enfin pas qu'on peut passer à autre chose, mais on a besoin en fait de la lutte parfois pour guérir en fait. Et donc maintenant, j'essaye de créer des ateliers où on avance vers ok, comment on se répare et par l'organisation collective en fait. Donc c'est pour ça que c'est cool en fait de faire cette journée aujourd'hui. Et puis aussi, il faut se rappeler qu'on est du coup le 13-12.
Oui. Joyeux 13-12 à tout le monde.
Oui, joyeux 13-12.
Il faut que ce soit une date qui reste dans nos têtes, en fait. Tu vois.
Bah oui, il ne faut pas oublier.
Il ne faut pas l'oublier, celle-là.
C'est clair. Et du coup, pour aujourd'hui, la discussion, tu vas l'organiser comment?
Alors, la discussion, c'est... Enfin, en fait, ça, c'est toujours un peu compliqué, les trucs d'atelier et tout, parce que tu as toujours envie que ce soit fluide et tu as toujours envie que tout le monde participe et qu'il n'y ait pas d'expertise et qu'en même temps, tout le monde se sente safe. Enfin, c'est trop dur. Donc, on a décidé qu'on allait faire un café. Voilà. Comme il n'y a pas de café, bah on a fait un café, on a fait un vrai salon comme une maison, et la maison elle est magnifique. Donc voilà, tu auras différentes tables, comme dans un... Et tu sais, comme dans les cafés, tu as une espèce d'intimité qui fait que tu ne connais pas les gens qui sont en face de toi, mais comme c'est une petite intimité, tu as envie de les connaître. Tu vois, c'est un peu un paradoxe des cafés. Donc on va vraiment faire un café. Et dans ce café, on va réfléchir bah voilà, à s'organiser, et pourquoi pas regarder un petit film après. Mais j'ai plus envie que ce qui se passe dans la discussion, de voir ce que la discussion propose, plutôt que tout dévoiler en avance.
Et du coup, les personnes que tu as invitées aujourd'hui, c'est surtout des familles ou
C'est surtout des personnes racisées qui sont en général encore beaucoup plus attaquées, harcelées, violées par la police. Et à côté, on espère bien sûr que aussi nos copains, nos camarades, les copines du milieu militant aussi écoutent un peu qu'est-ce qui se passe dans les quartiers et en plus comment que on peut se renforcer dans les deux côtés quoi. Quand on est justifié pour faire la lutte dans un certain quartier, qu'est-ce qui est besoin pour renforcer leur lutte ou leur voix, ou de donner plus d'ampleur dessus, et peut-être être plus forte et s'organiser mieux.
Mais du coup, par rapport à la question des personnes racisées, des copaines, en fait, justement, je pense que c'est ça qui est en train de se jouer un peu à Bruxelles aujourd'hui. Là, on est genre juste à Anderlecht, en fait. Donc, il y a beaucoup de sang qui a coulé ici, il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas résolues ici, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de points communs et qui ne se parlent pas forcément tous les jours dans la rue, qui se sentent concernées en fait, par ce qui s'est passé ici en termes de violence policière. Et sans compter aussi qu'on est du coup dans juste la commune de Bruxelles, ou en tout cas le quartier de Bruxelles, avec le plus de projets d'aménagement, rénovation, faut tout raser comme ça, tu vois, il y a un PRU, il y a un CRU, il y a un CQD, enfin, genre, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont représentées, c'est un truc de ouf.
Sauf ACAP.
Ouh, shit, il l'a dit. Mais si, maintenant c'est fait, on y est. Voilà. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de créer un. Enfin, que nous créons un réseau, en fait, où que, voilà, que tu sois racisé, que tu aies lu Frantz Fanon, que tu aies lu Césaire, ou que tu sois juste dans la street et que tu aies appris dans la street la dureté de la vie, qu'on puisse se rencontrer, en fait. C'est super important.
Ouais, parce que là, du coup, on avait un peu suivi les actualités, c'était des non-lieux sur non-lieux. Et du coup, je pense qu'il y avait un communiqué aussi qui a été posté par la famille d'Adil. Peut-être toi, tu peux en parler.
Je peux essayer de faire. Mais en fait, il y a la recherche qui a fait en recherche et qui disent qu'ils ont donné leur dossier à la parquet. Et le parquet a dit « Ah, mais en fait, il n'y a rien passé faux. » Et voilà, alors on ne doit pas aller au juge. Ou alors, nous, comme parquet, alors on ne va pas aller au juge. Et la famille a réagi que... quand je vois le témoignage bien devant moi, c'est un peu de vous avez fait une recherche, mais vous avez fait une recherche pure stratégiquement ou pure théoriquement, qu'est-ce qui est passé sur cette nuit, mais vous n'avez pas du tout analysé qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la police présente dans les quartiers, quelle peur que ça donne chez des jeunes, est-ce que une poursuite pour un contrôle Covid, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire avec 3 voitures ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de aller en contresens sans sirène, sans je sais pas quoi ? Et est-ce qu'il n'y a pas plus des trucs à rechercher ou à mettre en question ? Et est-ce que c'est pas juste le ok, la voiture venait de là-bas, il roulait si beaucoup de kilomètres par heure et le moto d'Adil roulait à 7 km par heure, alors, et lui, c'est ça que disent, qu'il a quitté son trajet. Et voilà, c'est très théoriquement comment que eux analysent, ou qu'il y a des fautes ou pas des fautes, mais il n'y a pas du tout un questionnement de la structure de la police, la structure de recherche dans le quartier, et des contrôles d'identité dans les quartiers, quoi.
Ce truc avec le parquet, c'est faut s'imaginer en fait que ça fait partie d'un processus ou d'un système judiciaire en entier. Et en fait, le système judiciaire, c'est une machine. En fait, il y a des rouages. Et dans ces rouages, dans ces rouages, la réécriture de l'histoire, en mettant en cause la personne, en portant plainte contre la personne et en retournant la situation, vraiment retourner la situation au sens propre de retourner. Quand tu retournes une pastilla, tu la retournes. C'est ça le concept, en fait. Tu vois, c'est genre, il s'est passé une version. En fait, il y a la version de la réalité qui s'est passée, qu'on n'a pas vu, on n'était pas là, donc nous, on ne sait pas. Il y a la version de la personne qui est morte. Elle est morte, c'est dommage. Personne ne pourra témoigner pour elle. Donc la seule voix qui reste, qui est valable, c'est celle du coup d'une autorité qui représente en fait l'État. Donc ça fait que c'est biaisé en deux sens. D'une part, c'est biaisé puisque les seules personnes qui ont encore la parole ou du témoignage, du coup, c'est les personnes qui étaient présentes, qui sont policières. Et l'autre chose qui fait que c'est biaisé, c'est qu'en fait, c'est pas anodin et neutre que ce soit des policiers. Tu vois, genre, qu'ils soient les seuls témoins, c'est une chose, mais c'est dommage que les seuls témoins représentent l'État et qu'ils soient eux-mêmes représentés par eux-mêmes, en fait. Ça, c'est gênant. Et ce qui, moi, me donne envie d'organiser des moments comme ça, comme aujourd'hui, ce qui donne envie aussi de faire de la radio dans des moments comme ça, c'est pour qu'on apprenne, en tant que personne racisée, justement, en tant que personne des quartiers, c'est pour que nous, on apprenne aussi à raconter nos versions des faits, en fait. C'est très important qu'on raconte nos versions des faits. Et comme tu le dis très justement, il faut absolument qu'on puisse justement élargir l'histoire, en fait, raconter que c'est pas normal que ça se passe dans ce quartier, mettre en lien le fait de ce qui s'est passé ce jour-là et qui est parti beaucoup trop loin avec l'immensité des contrôles au quotidien, mettre ça en lien aussi avec la surprésence policière à Kurugem. Genre, pourquoi est-ce que la police est autant présente dans ce quartier, en fait ? Alors que c'est un quartier qui est extrêmement familial, avec des communautés linguistiques qui se parlent dans leur langue. Enfin, les gens règlent leurs problèmes, en fait, ici. Les gens, quand il y a un souci de dans une famille, les gens, ils vont se taper dessus à l'aise, ils vont crier et tout cinéma. Mais le problème, il va être réglé en interne. Donc, en fait, il y a juste une question même à se poser sur, en fait, juste la nécessité de l'intervention policière. Et d'ailleurs, par rapport à la question de la fuite, par rapport au contrôle du masque, Ça, c'est abusé. Et on saura d'ailleurs que le fameux Michel Zecler en France qui s'est fait tabasser, bah, c'est pareil. C'est une histoire de masque aussi. Donc, donc d'un côté, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui sont dans la galère et des gens qui tombent malades pendant Covid. Et d'un autre, on en tue d'autres, en fait, on en lynche d'autres. Et surtout, en fait, à la réponse à quelque chose de sanitaire, on ajoute une réponse répressive. Et ça, pour moi, c'est gênant.
Et peut-être juste pour pas se concentrer juste sur cette histoire d'Adil, il y a la même qui se passe avec Mehdi qui s'est fait tuer une année et demie passée maintenant en juin ou juillet 2019, qui ont fait la même chose quoi, ils ont le tué avec une voiture sans sirène à 90 km par heure avec Mehdi, il était piétonnier, alors il s'est fait choper par le, allez, par la voiture. Là-bas, ils disent la même chose. Voilà, théoriquement, il n'y a rien qui est passé faux parce que voilà, eux étaient en route vers un truc. Alors, eux peuvent renverser des humains ou des personnes. Et on voit que ça, c'est pas juste aussi Mehdi ou Adil, c'est aussi Chovanec, c'est aussi les deux jeunes qui se sont fait tuer en 2018 aussi avec une poursuite. De voiture.
Lamine Bangoura, n'oublions pas.
On n'oublie pas, on est là.
Et il y a des milliers d'histoires, et c'est pas juste ces petites histoires de tue ou d'assassinat. Il y a encore cette semaine un article qui est sorti que trois flics ont battu un mec dans la cellule, une irakienne. Qui se fait tabasser dans la cellule à centre Bruxelles, et encore une fois la parquet dit en fait on n'a pas de témoignage parce que bien sûr il était dans la cellule alors personne ne pouvait le voir, et ces témoignages de cette personne qui se fait tabasser, eux sont pas toujours les mêmes, alors probablement il imagine tous lui-même, et voilà, alors il n'y a pas de preuves. Et en fait, ça se passe jour à jour. Ça passe pour beaucoup de jeunes dans leur vie quotidienne, quoi. Et c'est pas que ça qui, allez, c'est pas que les assassinats qui besoin d'être témoignés et qui besoin d'être parlé entre nous, quoi.
Je voulais ajouter quelque chose sur parce que justement tout à l'heure je parlais du fait que le système judiciaire il a un processus et que passer par le parquet et le parquet qui prononce un non-lieu ça fait partie du processus. Affaire Adama Traoré c'est pareil, il y a eu 4 non-lieux différents et je veux dire un truc sur le non-lieu et un truc sur le processus. Sur le non-lieu, ce qui est gênant c'est qu'en fait un non-lieu c'est nier que la personne elle est décédée. Donc comme tu dis, hein, il y a des milliers, il y a des centaines de violences policières qui se passent, qui sont pas comptabilisées, qui sont invisibles, les gens n'en parlent pas, ne témoignent pas. Mais dans les cas où des gens décèdent, le fait que la personne soit morte, on peut quand même juste reconnaître que la personne elle est morte en fait. Tu peux quand même reconnaître que la personne elle est plus là, elle est pas venue à l'école en fait cette semaine, tu vois. Et ça déjà cette négation là de la mort, c'est compliqué, tu vois. Ça c'est compliqué. Le fait du coup et le fait de pas de nier la mort, c'est aussi une manière de ne pas présenter d'excuses. Et quand bien même le procès est pas encore passé, quand bien même on sait pas qui sera sanctionné, OK, processus judiciaire, mais présenter une excuse à une famille, ça coûte pas cher en fait. Et ça peut faire beaucoup. Mais sauf que ça demanderait de reconnaître des défaillances et des dysfonctionnements étatiques. Et ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà par rapport au non-lieu et le fait que le non-lieu, en fait, fait partie du processus, en fait. Si jamais on commence à dire qu'il n'y a pas des non-lieux, ben, c'est fini. En fait, la justice ne sert plus à défendre le système tel qu'il est établi. Autant changer de justice. Bref. Donc, face à ça, si jamais le système judiciaire et policier et répressif a un système, c'est très important que nous, et quand je dis nous, c'est un nous qui est extrêmement large et je fais aussi appel à beaucoup d'alliés, de différentes couleurs de la peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est au front. C'est ça qui m'intéresse, c'est la première ligne. Après, on voit pour le reste comment on s'organise. Faut que nous aussi, on ait notre système, en fait. Faut que nous aussi, on ait notre manière de faire, en fait, tu vois. Genre, on peut pas, par exemple, tu vois, les communiqués de presse, les choses qui sont publiques, faut qu'on ait des stratégies pour savoir qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on dit, comment on harmonise notre discours, comment au contraire on va toucher d'autres luttes, comment au contraire et à quel moment on parle en fait, et avec qui on parle en fait, c'est important ça, c'est important. Et je pense que pour l'instant, le système répressif, il a des années, des centaines d'années d'expérience derrière lui, de colonialisme, etc. Donc forcément, il a eu le temps de se roder avec le temps, il y a de la jurisprudence, mais de notre côté aussi, en fait, faut qu'on enclenche ça. C'est quoi notre manière de faire en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose en fait? Comment on accueille le témoignage? Comment on soutient la famille? Comment on va faire des études de psychologie pour avoir des psychologues de nos côtés? Comment on crée des brigades de street medic à Bruxelles aussi? Comment on a des gens qui font la bouffe et qui savent faire la bouffe pendant les manifs? C'est important ça. Il faut que les manifs ce soient des fêtes. tu vois. Nouvelle-Orléans, les manifs, t'as les drums, t'as du bruit, t'as de la nourriture, des barbecues, des déguisements. Faut que ce soit pareil, en fait. Faut qu'on trouve nos manières de nous défendre, vraiment. Et qu'on les systémise.
Ouais, et qu'on laisse pas des familles esselées un peu face à un système et que vite, en fait, une fois que c'est traité médiatiquement, c'est plié, on n'en parle plus. Et ça va aussi un peu avec tout un système médiatique qui fait que peu de gens ont la connaissance des suites, en fait, à part si on s'y intéresse. Et alors, comment est-ce qu'on maintient l'intérêt des gens pour ce qui s'est passé pour ces personnes-là, pour un intérêt plus large, pour les stimuler à une forme de résistance. Et ouais, que les personnes, les familles, ne doivent pas forcément structurer seules la lutte de leur vie, quoi, parce que généralement, c'est un peu des dates historiques clés dans leur histoire familiale, et c'est trop peu des dates historiques clés dans une histoire nationale. Ou...
Juste par rapport aux familles, je pense que c'est important que tu soulignes ça, c'est qu'effectivement, être une famille, c'est quelque chose. Genre, ça veut dire que déjà, tu es en train de faire un deuil. Donc, en plus, si jamais t'es dans un truc de recueillement, si en plus t'as une certaine confession, peut-être que t'as une certaine manière aussi d'approcher la mort, d'approcher la perte, qui fait que bah, peut-être que justement tout ce qui est médiatique, ça en fait pas partie. Alors que inversement, face au rouleau compresseur du système, bah, en fait, c'est bien d'être mobilisé, c'est bien d'être super présent médiatiquement et publiquement. Ce qui est paradoxal avec la question du deuil, qui est beaucoup plus intime. Donc là-dessus, déjà, il y a quelque chose à penser. Qui fait que la lutte contre les violences policières, c'est une lutte un peu différente des autres. Et personnellement, moi, cette lutte, elle me parle beaucoup parce que, tu vois, par exemple, la question du logement, c'est une question que je trouve transversale. Ça veut dire, si tu commences à parler du logement, en fait, tu parles du rapport à l'économie, tu parles du rapport de genre, tu parles de la précarité, tu parles de race, tu parles de beaucoup de choses, tu parles de la gentrification avec le logement. Et bien, en fait, il s'avère qu'avec la police, c'est pareil, c'est transversal aussi. Parce que la police, en fait, on a tous et toutes un lien avec...
C'est juste qu'il est conscientisé plus ou moins...
Tout à fait. Et qu'en fait, tu vois, typiquement, dans certains quartiers qui sont en renouvellement, tu vas avoir... Non, je vais donner encore... Dans certains quartiers qui sont en renouvellement urbain, on va casser des tours et tout ça. Donc, premièrement, police va être beaucoup plus présente. Mais aussi, les nouveaux habitants vont avoir tendance à se dire « Ah tiens, on a un souci de voisinage, on en a marre de ces jeunes qui sont en train de dealer en bas. Donc, nous, on va appeler la police. » Et donc, accroître la présence, tu vois. Et donc, en fait, t'as tout un truc comme ça de... En fait, c'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est qu'en fait, notre rapport à la police, c'est lui-même qui doit être décolonisé, en fait. Faut qu'on vienne à apprendre que pour régler nos problèmes, on doit apprendre à régler nos problèmes entre êtres humains, en fait. S'il faut que toi et moi, on se tape, tu vois. S'il faut que tu me cries dessus, il n'y a pas de souci.
On va le faire à côté, après.
T'inquiète, il y a un truc de boxe en bas. Ça tombe bien, il y a des bons boxeurs ici, à l'aise. Mais du coup, il faut qu'on arrête de ce truc de « Ah, tu m'as saoulé, ok, c'est bon, j'appelle la police, en fait. » Ça, c'est important qu'on réussisse à se décoloniser de ça. Aussi par soutien avec bah, tous nos voisins, nos amis éloignés, qui sont juste, comme tu le dis, voilà, alpagués, harcelés au quotidien. Genre, en fait, la police, c'est pas vraiment du côté du citoyen, en fait. Hein. C'est pas vraiment, en fait.
Pas du tout, en fait.
Hein, voilà.
Je sais pas s'il y a peut-être quelqu'un d'autre autour de la table qui veut prendre le micro ou dire quelque chose.
Juste rajouter à ce que la jeune mademoiselle nous a dit, c'est très important de systématiser les manifs, tout ça. Mais je trouve que ça doit pas seulement rester, ça doit pas seulement se terminer à des manifs, en fait. Parce que les manifs, c'est très important. Parce que tout le monde doit savoir ce qu'on fait dans le monde, et si le monde ne sait pas ce que tu fais ou bien ce que tu es en train de subir, ben, ils vont pas savoir en fait dans quelle galère tu es. Donc le manif, c'est important, mais ça peut pas seulement s'arrêter au manif. Il faut aller plus loin au-delà de ça. Et j'ai l'impression que dans cette société, on fait la manif, puis après la manif, il y a plus rien. Donc du coup, il faut passer au-delà de là, au-delà de cela plutôt. Donc il faut vraiment aller vers les bourgmestres, il faut aller vers les échevins. Et comme on dit toujours, quand tu touches à la poche d'une personne, c'est là où la personne commence à trouver des solutions.
J'avais une question un peu par rapport à ça. Du coup, c'est si on se place en opposition avec le système judiciaire, le système étatique, le système de la police, comment est-ce que justement il y a un échange qui se fait à un moment, une négociation qui se fait à un moment ? Il y a dialogue, il n'y a pas dialogue ? C'est propre à chacun de prendre son point de vue par rapport à ça ou...
Mais je trouve ça une question assez intéressante et j'espère qu'on va peut-être aller plus loin ici cet après-midi. Moi, je trouve que c'est fort personnel parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun reconnaissance pour ce système. Et il y a des personnes qui expectent beaucoup de ce système, dans le sens qu'il y a de certaines philosophies politiques qui ne veulent plus reconnaître ces structures. Et il y a des personnes qui essayent de trouver un moyen de quand même laisser évoluer ces structures. Moi, je ne me positionne pas dedans parce que je trouve ça très difficile de se positionner dedans. J'ai eu des contacts avec des conseillères, par exemple, ici à Anderlecht, qui me disent « oui, on doit créer un échange entre... des anards entre guillemets et les jeunes et la politique. » Et là, je suis un peu comme « mais non, vous êtes coupable vous-même en fait. » Et on ne doit pas être naïf dedans que voilà, il y a toujours certaines personnes qui sont peut-être encore naïfs dans leur expérience politique, ou certains qui sont juste un peu manipulateurs et un peu récupération de cette lutte. Alors voilà, je pense qu'on doit parler de ça aussi et d'avoir des réflexions ensemble, en intelligence collective, quoi, sur comment on le fait et comment on utilise eux et comment on ne se fait pas utiliser, quoi.
J'aimerais ajouter à ça, à cette idée du token, de se faire utiliser. Moi, en termes activistes, je crois beaucoup dans quelque chose qui s'appelle la transformation sociale. Et du coup, la transformation sociale, c'est un peu le truc de dire « Ok, regarde la société comment elle est, regarde où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche pas, où est-ce que c'est malade, où est-ce qu'il n'y a rien d'ailleurs, où est-ce qu'il y a un vide. » Et de ce vide ou de ce dysfonctionnement, essaye par toi-même, par tes propres moyens, même si ce n'est pas grand-chose, de faire quelque chose. Et par exemple, un truc tout con, les familles des victimes. Quand je dis victimes, je parle... de beaucoup de victimes différentes. Hein. Je parle aussi de la victime qui s'est fait alpaguer, je parle aussi de la femme battue qui est partie à la police et on lui a dit « Ah, oh, sorry madame, on n'a pas de preuves ». Bref, tout ça pour dire les victimes. Les victimes aujourd'hui, donc, je ne sais pas si vous savez, mais on en a déjà parlé, Ayoub du collectif Justice pour Mehdi, il en parle régulièrement. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, le service d'aide aux victimes en Belgique, c'est une antenne de la police, en fait. Pareil, le document dont tu viens de parler sur le travail que le Parlement bruxellois, ou en tout cas, que enfin, je ne sais pas trop qui, je ne sais pas à quel niveau, en fait, a envie d'entreprendre sur le rapport entre les citoyens et la police. Ce rapport-là, c'est bien qu'il existe, c'est bien qu'il y ait une proposition, une résolution, je ne sais plus, qui a été votée. Il y a une intention, en tout cas politique, de bouger, c'est nice. Mais le souci, c'est que les instances ou les organes en fait, qui vont agir, donc qui va rendre justice, en fait, qui va travailler là-dedans, c'est aussi une antenne de la police, en fait, c'est BRS. Et en fait, à un moment donné, ce que tu dis, et quelque chose dans lequel on croit dans l'infoféminisme, c'est tu ne peux pas mettre à la même table le bourreau et l'agressé, en fait. Tu ne peux pas mettre. En fait, moi, si jamais demain, tu mets en face de quelqu'un qui a genre, juste violé ma grand-mère, je ne vais pas lui parler, en fait. Je ne vais juste pas parler avec la personne, en fait. Flemme. Flemme. Donc, en plus, quand on sait toute la méfiance qu'il y a envers les policiers, flemme. Tu vois. Pareil, on va mettre des agents de proximité en plus, magnifique. Peut-être qu'en mettant des agents de proximité, ça va créer des relations de proximité. Mais en fait, le problème, c'est que si déjà, tu as des policiers qui ont des comportements voyous, au sens propre du mot voyou, et qui sont plus dans le quartier, en fait, qu'est-ce qui dit qu'en étant en plus en proximité, qu'est-ce qui dit qu'ils vont arrêter ces comportements voyous, en fait ? C'est pas le fait d'être plus nombreux ou plus proches qui vient casser le dysfonctionnement. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que je pense que au-delà de est-ce qu'il faut qu'on négocie, au-delà de réfléchir à notre positionnement par rapport à ce qui existe déjà et ce qui est dysfonctionnel, il faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'il y a des trous qu'on a envie de traiter. Et par exemple, pour moi, la question de l'aide aux victimes, ça, c'est une question qui est fondamentale. Parce qu'il n'y a pas d'aide aux victimes, donc il faut en créer une, tu vois, par exemple. De réfléchir sur les trous, réfléchir sur les vides.
Je propose qu'on écoute la capsule sonore du cycle que tu avais organisé au décor-atelier, histoire de faire une petite pause de son, et du coup, qui peut aussi ouvrir sur une discussion après.
C'est pas chacun un débat tour. Ici, c'est chacun son tour. Donc chacun va raconter son histoire.
Et à cette époque-là, moi, je me disais anarchiste non violent. Je voulais pas blesser des gens, je voulais pas attaquer la police, je voulais pas casser quoi que ce soit. Bon, moi, j'étais tout en tête de cortège en première ligne. Et en tout cas, on était beaucoup avancé les mains en l'air, comme ça, donc en signe de non-agression. Et là, je m'y attendais pas du tout. Il y a un flic, du coup, qui est passé et qui a gazé tout le monde plusieurs fois. Où t'as l'impression que tu peux rien faire, tu peux pas respirer, tu es complètement désorienté. Et j'en garde le souvenir comme de, ouais, l'expérience peut-être physiquement la plus douloureuse de mes vies, ou l'une des. Et voilà, pour l'anecdote, c'est ce jour-là que j'ai cessé d'être pacifiste, parce qu'en fait, moi, je voulais bien être pacifiste, mais la police n'était pas chaude.
Je suis chorégraphe, danseur et black activiste. J'avais déménagé à Uccle. On était trois dans la street, comme ça on marchait. Ils ont freiné la voiture, ils ont commencé à me crier dessus. « Hé, les noirs, arrête-toi, mais arrête-toi vite !» Ils étaient à trois, ils ont descendu de la voiture. Ils m'ont même pas posé de questions. Ils m'ont menotté. Donc, ils m'ont jeté sur la voiture et ils m'ont menotté. Et il y a un qui a commencé à me faire des tapettes comme ça sur la joue et qui me disait « Tu vois comment les blacks ils flippent dans notre quartier ?»
Et voilà, c'est souvent des trucs comme ça que j'ai en tout cas observé, des manières de parler qui sont pas sympas, qui sont pas cool, des façons d'humilier. Et on le voit, enfin, Beckent, justement, quand je passe par là, c'est toujours des gamins qui ont 13 ans qui se font accoster par la police alors qu'ils sont posés là. Enfin, on a tous fait ça après l'école, se poser à un arrêt de tram et rester pendant 3 heures avant de rentrer à la maison. Mais eux sont tous contrôlés à chaque fois. Et ça, je pense qu'on en est tous témoins.
On les voyait se faire prendre par la BA pratiquement. Allez, c'était 2-3 fois par semaine. Ils se faisaient prendre le matin et quand ils rentraient le soir, ils étaient gonflés, quoi. Et c'était fréquent. Quand il se passe un truc comme ça, vu qu'on a les réseaux sociaux et ce qu'on n'avait pas avant, ça tourne vite. Donc j'ai l'impression que maintenant, ça se fait moins. Enfin, j'espère.
On baisse la police.
T'as dit quoi, du coup ?
On baisse la police.
On baisse la police ?
Oui. On baisse la police. À part vite s'agir, ils ont crié ça.
À 4h du matin, ils sont venus au cachot, ils m'ont dit « Allez, tu es libre ». « Oui, monsieur, je suis libre. Mais comment ? Ils vont me donner un papier ou... ?» Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé directement l'avocat. J'ai fait 39 mois pour rien du tout. Ils m'ont pris l'argent, ils m'ont frappé, ils m'ont cassé deux côtes. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien du tout. Moi, quand j'ai posé plainte, il n'y a pas de nouvelles. Mais eux, ils te jugent pour rien du tout.
J'ai fait donc mon stage pendant 4 mois à la brigade jeunesse de Molenbeek, près de Beckent. Mais après mon stage, j'ai décidé d'être travailleuse sociale pour jeunes, après tout ce que j'ai vu pendant 4 mois à la police. J'ai aussi vu que systématiquement, oui, les Marocains et aussi les Roms, les enfants Roms, beaucoup, se faire prendre comme ça. Et je me suis dit, en fait, ouais, en fait, j'ai rien à faire ici et je ne vais pas changer le monde. En fait, surtout en tant que femme colorée, je ne vais pas arriver à la police. Parce que j'aurais pu être commissaire après mes études, direct, et être le chef de ces gars. Mais... même si ma maman me dit « oui, t'aurais dû aller changer le truc », je pense pas que je l'aurais changé toute seule. Il y a une différence entre « oui, le policier strict » et « on sent quand ça vient d'un endroit de racisme, on le sent, je sais pas l'expliquer, faudrait juste être un jour noir pour le sentir ou un jour barbu ».
Quand je vois la police ou quand j'entends la police, j'ai un raidissement du corps. Je le sais. Parce que je sais que, peu importe que... tu vois, je suis tout... T'as une culpabilité en fait qui est mise sur toi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes ici qui peuvent marcher, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais moi, quand je marche, quand j'entends la police ou quand je vois une situation de danger, il faut que je me rappelle que je suis noir et que je me rappelle que non, s'il se passe un truc, de tout le monde ici, c'est sûrement toi qui vas prendre le plus cher, tu vois ce que je veux dire?
On connaît le droit, mais ils sont bafoués, ces droits.
Ouais, voilà, voilà, j'ai l'impression que c'est ça.
On est comme des moutons, on peut rien...
Jamais entendu parler de... jamais eu de... allez, de journée spéciale où on va parler du comité P, ils vont venir nous expliquer qu'on a un contact et tout ça.
Tout ce qui est droit, généralement, t'apprends ça beaucoup plus tard.
Ouais,
mais... en fait, on n'informe pas les quand t'es mineur et que tu fais cours de citoyenneté. Enfin, nous, on avait ça dans notre école. Et on apprenait juste, ah, c'est qui le bourgmestre, c'est qui le ministre. Mais pas tes droits. Ça, t'apprends à l'ENIF quand tu vas en droit ou quand tu fais éco. Et que... mais sinon, c'est... on laisse justement pas accès à la majorité des personnes à connaître leurs droits. On apprend ça qu'à l'élite qui va à l'université ou qui va aux études supérieures. Et donc, il y a une petite partie de la population qui connaît ses droits. Enfin...
Je voulais juste dire un truc, c'est que je pense que c'est important qu'on politise notre compréhension de ce qu'est la police, en fait. Et il y a un truc comme, tu vois, la médecine générale, l'école et le corps policier, c'est trois choses qu'on a prises pour acquises, c'est trois choses qu'on a été éduquées avec et que depuis notre naissance, elles sont là, comme elles sont, et on l'accepte. Et je pense que c'est important aujourd'hui, qu'on soit de quelque couleur de peau que ce soit, de quelque quartier que ce soit, c'est important aujourd'hui qu'on comprenne qu'on doit déconstruire aussi bien l'école que le médecin, que la police, en fait. Tu vois, le travail, il se fait dans les trois. Et cette déconstruction-là, si jamais tu la pousses jusqu'au bout, alors tu arrives à l'abolition et de la police et de la prison. Si tu pousses cette déconstruction jusqu'au bout, tu te rends compte que tu n'en as plus besoin, en fait, parce qu'on peut le faire nous-mêmes et autrement, et que de toute façon, ça nous tue. De toute façon, de un, et de deux, ce travail de déconstruction, si jamais tu le mènes, alors effectivement tu relèves des couches comme ça et tu te rends compte que effectivement, bizarrement, le corps policier, bah, bizarrement, intervient sur un certain type de jeunesse dans certains quartiers. Tu te rends compte qu'en fait il y a des patterns, en fait, qu'il y a des ressemblances, qu'il y a des fonctionnements, en fait.
Et c'est une vraie problématique, et pour moi ces violences policières, ils ont un impact énorme au niveau psychologique, au niveau de ces jeunes. Pour moi, c'est hyper dangereux, cette violence gratuite. Ma vision, c'est déjà sensibiliser tous ceux qui ne subissent pas les violences policières. Parce que directement, quand un jeune subit, « Ah oui, mais bon, c'est un délinquant, c'est toujours les mêmes. C'est un drôle, ils ne sont pas éduqués, ils ne vont pas à l'école, c'est que des délinquants, c'est tous des voleurs. Bah, » déjà, si on arrive à changer la façon de nous voir...
Parfois, ce n'est pas nécessairement que ce soit toujours racisé. Parfois, ça a trait à l'échelon social, on va dire. Parfois, quand on est d'un quartier, qu'on a une certaine dégaine, alors on est plus, on sera plus susceptible d'avoir un contrôle de la police ou de se faire un petit peu casser la figure.
Dernièrement, enfin avec la crise qu'on traverse, j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de la population qui était plutôt aisée, blanche, classe moyenne, qui, avec ce qui est en train de se passer, a commencé petit à petit à subir aussi des violences policières. Et en un coup, il commence à donner du crédit à toutes les personnes racisées qui disent ça depuis des années, en fait. Et ce n'est pas un secret depuis des années.
Donc il n'y a que ceux qui subissent, qui peuvent vraiment, je veux dire, en faire un débat. Mais ils ont tellement difficile, ils ont tellement subi, et ils ont tellement de colère, de la haine, que c'est difficile d'en parler.
Je voulais dire quelque chose que je viens juste de comprendre maintenant. C'est qu'en fait, je pense que il y a plusieurs discussions. Tu as la discussion sur la police, politiquement, qu'est-ce que c'est comme corps. Tu as la discussion sur l'autodéfense, est-ce qu'on est capable ou non, est-ce que c'est équitable, il y a les anciennes manières, méthodes, est-ce qu'on peut les réapprendre. Mais tu as aussi la question sur c'est quoi la violence, en fait, et c'est quoi les violences, en fait. Et tu vois, pendant les premières discussions qu'on a eues dans ces workshops, tu as eu une personne qui a perdu son frère par la police, qui a dit qu'il y avait par exemple la violence de la perte, tu vois, ou t'as aussi la violence de l'attente, tu vois, genre quand t'es, mettons, sans papier et qu'on t'arrête tous les matins, t'as aussi la violence de la répétition. Et je pense que pour nous, personnes racisées, précisément, on a un agenda de travail précis sur comprendre quels sont les différents types de violences qu'on cherche à nous infliger.
Je vais partager un truc très intime et qui pour moi est très important dans un contexte comme celui-ci, parce que ce moment historique est très important, il est crucial. On n'a plus le temps des détours. Moi, j'ai 50 ans maintenant. À l'âge de 20 ans, il y a 30 ans, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Et j'en ai jamais eu. Pourquoi ? Parce qu'à 20 ans, j'ai compris que la seule façon pour moi de protéger mes enfants, c'est en les laissant dans mon ventre. Et si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que je sais que la seule façon de protéger certaines couche de notre société, c'est d'abolir la police. Rien d'autre ne peut nous protéger. Rien. Il n'y a pas de self-défense qui peut nous protéger. Quand il y a eu la manif de Black Lives Matter et que les flics, pour se venger de cette manif, ont pris un petit gamin d'origine marocain, 15 ans, l'ont mis dans une camionnette et à 5, ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il saignait de partout. Et puis ils l'ont jeté dans la rue. Qu'est-ce qui aurait pu le protéger ? Quel type de self-défense aurait pu le protéger de ça ? Il n'y en a pas. Je suis là parce que je veux abolir la police. Je ne suis pas là pour parler de self-défense.
1, 2, 3, 4.
Ils sont toujours là, mais en fait, nous aussi, on est beaucoup. Et ce que j'essaye de faire là, maintenant, ici, aujourd'hui, avec The Movement, avec tous ceux qui sont partants et partantes, c'est justement de faire en sorte qu'on ait juste plus peur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les manifestations de Ferguson aux États-Unis. À un moment donné, tu as eu un seuil de bascule dans la manif où les gens étaient tellement sortis dans l'espace public et les gens avaient tellement pris la voix que tu n'as plus peur. Et quand tu sais casser le cercle de la peur, alors tu casses le scénario de l'agression et ça va mieux.
On est de retour sur Radio 1312. Et là, je suis avec qui a aussi participé au cycle de discussion du coup au décor-atelier.
Allô, bonjour.
Du coup, toi, tu as participé à ce cycle de discussion ?
J'avais beaucoup de choses dans le cœur, mais qui n'arrivaient pas à sortir ce jour-là. Mais aujourd'hui, je suis plus apaisé à pouvoir expliquer tout ça.
Mais je te laisse la parole,
ouais.
Du coup.
Ouais. Donc, pour les bavures policières, je suis venu en 2009 en Belgique. Donc, je ne connaissais pas les contrôles de police. Je n'ai jamais vu les contrôles de police. Même l'intimidation de la police, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. Et donc, d'ici, on nous visait tout le temps. Même si on ne faisait pas de conneries ou quoi que ce soit, on était juste entre amis, posés au parc. On nous contrôlait pour rien, en fait. De là, après, ça crée des tensions vis-à-vis de la société, des jeunes et de leur développement. Et malgré tout ça, ça m'a après fait réfléchir du genre que je ne dois pas être dans la répondance avec eux. Je dois être un peu plus diplomatique avec eux et les parler d'un autre sens.
Pas seulement, pas seulement diplomatique, mais tu dois te protéger en premier instant. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, enregistre la conversation, filme la conversation, parce que quoi qu'il arrive, tu dois toujours te protéger.
Quand je parle de la diplomatie, c'est parler plus de comment ils nous poussent à bout et comment on doit faire le contresens de ne pas se laisser rentrer dans le jeu.
Donc en relation directe, quoi, quand tu rencontres...
Relation directe, ouais. Okay. Parce que y a le relation directe, c'est le premier abord. Et ça m'a un peu marqué un peu, tu vois. Mais c'est des bêtes trucs comme ça qui peuvent te pousser à bout de révolter, d'être révolté contre la police. Mais souvent, c'est tu perds. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Parce qu'il travaille avec l'État.
C'est pas des bêtes trucs, il faut pas négliger cela. Pourquoi ? Parce que, en gros... Ce sont des côtés psychologiques qui restent dans ta tête. Et c'est pas des bêtes trucs. Et je trouve que là, maintenant, dans la société, on fait en sorte que le racisme devienne quelque chose de normal. Ben oui, c'est normal, tu vas subir du racisme. C'est normal qu'on t'insulte de X, Y, Z, qu'on va te dire rentre chez toi, on va te saluer de singe, etc., etc. Mais ça ne doit pas devenir quelque chose de normal. C'est quoi la différence entre deux personnes ? Quand je prends un couteau, je coupe dans mon bras, il y a le sang rouge qui coule. Et c'est là où est-ce que tu vois que d'autres personnes ont un privilège. Et c'est ce privilège-là qu'il faut combattre. C'est pas moi combattre, mais je veux dire que c'est un privilège qu'il faut en discuter. Parce que si une partie de la population peut vivre avec ses privilèges, du coup, il faut comprendre qu'une autre partie va se sentir oppressée. Et qu'est-ce qui se passe avec un peuple qui sont oppressés ? Ils vont toujours vouloir se révolter. Toujours vouloir se révolter. Donc du coup, il y a déjà quelque part ce côté où est-ce qu'il faut avoir ce dialogue de un, et de deux, rassembler des communautés qui se respectent entre eux. Parce qu'on n'a pas besoin... Moi, je trouve, mon opinion, on n'a pas besoin de s'entendre avec tout le monde. Non. Mais tu vas aimer tout le monde. Mais tu dois respecter chaque population. Tu dois respecter
comme
chaque culture.
Voilà, comme tu te vois, très tu important. Vois l'autre, c'est tout. Tu vois.
On va s'arrêter là pour le moment parce que la discussion en bas va commencer. Donc, je pense que c'est cool si on va voir un peu ce qui se passe en bas. Mais merci en tout cas beaucoup d'être venu à la radio et d'avoir pris le micro.
Allez, mais c'est pas fini encore.
Merci à vous aussi.
Et donc là, on va passer du son pendant que la discussion commence en bas. Et on reviendra du coup un peu plus tard. Et on va s'écouter un son qui est de Poste 33, mais que fait la police ?
Yes, yes.
À toutes.
Let's go. Ouais.
Mais que fait la police ? Dans les banlieues, elle représente tout sauf la justice. Mais que fait la police ? Les gens nous donnent une squat avant qu'elle ne sévisse. Mais que fait la police ? Dans les banlieues, elle représente. Avant qu'elle ne sévisse.
Hey, fils ça. Mais que fait la police ça? À part chercher les jeunes du quartier, à un contre 10 ça. Monde d'identité durant toute la journée. À croire qu'elle n'a pas de mémoire quand 5 minutes ils nous ont oubliés. Spécialiste dans le domaine de l'abus de pouvoir. Connaisseur dans l'art d'emmerder les lascars. Seulement voilà quand quelqu'un se fait shooter. Il en faut au moins une heure avant de se rappliquer. 10 ans pour enquêter.
Un procès.
Et le gars est acquitté s'il est blanc. Condamné s'il est immigré. Okay.
à faire. La police essaye, ménage Brabant à nous faire taire.
Mousse, mousse,
le déchaîné sur le mic. Celui qui passe dans la rue veut flipper les flics. Les gardes en uniforme bleu, ceux qui calment les nerveux. Leur contrôle d'identité, je trouve pas ça prodigieux. Ils se mettent à rendre toutes les cités. Les parents sont embarrassés de voir les enfants se faire emmener. Juste parce qu'ils n'ont pas leur papier et la gueule d'un suspect. On les passe en garde à vue et de coup ils paient. La justice ne ressemble plus à ce qu'elle était. Et c'est sur les jeunes des banlieues qui en font les frais.
Mousse, mousse.
De retour sur Radio 13-12. Je lui ai fait une dédicace.
Non, voilà. Non, c'est à moi. Donc, nous allons parler des bavures policières.
Ok, tu veux dire quoi là-dessus ?
Déjà, il tue une personne sans rien dire, sans rien comme ça. C'est pas logique.
Ben non, c'est pas logique.
Mais s'ils auraient tué un policier, là, ils auraient tout fait. Mais quand ça tue quelqu'un d'autre, ça fait rien du tout.
Et vous pensez qu'il faut faire quoi, du coup, contre...
Faut que les policiers s'excusent. Hein. Faut qu'il y ait quelque chose, hein. Sinon, ça va toujours continuer. Ça fait depuis 2019 que ça continue. Ça va jamais arrêter.
Et vous pensez qu'ils vont s'excuser ?
Je crois pas, parce qu'ils vont pas vouloir. Parce que aussi, ils se sont fait frapper la police. Ouais. Les jeunes, ils ont été agressifs avec eux. Et voilà, c'est pour ça qu'ils vont pas s'excuser.
Juste, ils disent un pardon et c'est tout. Mais ouais. Eux, ils veulent pas dire un pardon, juste un pardon.
Mais on est d'accord, c'est pas la même chose de frapper quelqu'un et de tuer quelqu'un.
Ouais.
Je propose qu'on s'écoute encore un petit son. C'est Ministère amer, c'est dans la BO de la haine, on me dit à l'oreille. Bon, ben on écoute ça tout de suite.
Comme le prédateur, je ne sors que la nuit.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi, j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique, on flic. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail Molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En maître, au CRS chaud qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier, on s'en va au territoire occupé. J'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Pfff, y'en a qui m'exige. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis dans les mentales.
On a un invité qui a rejoint les micros et qui veut nous lire un texte qu'il a choisi. Et je lui laisse la parole tout de suite.
Bonjour, bonjour. Je vais vous lire un texte extrait de « Pourquoi j'ai cambriolé ?» Donc écrit par Alexandre Marius Jacob, qui est un anarchiste de la Belle Époque. 3, 2, 1, c'est parti. Vous m'appelez un homme, voleur et bandit. Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi, sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur ? J'avoue ne pas en connaître. Mais moi qui ne suis ni rentier, ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que trois moyens d'existence. Le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. L'homme ne peut même pas se passer de travailler. Ses muscles, son cerveau, possède une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution. La reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine comme dans un bagne, plutôt que mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches.
Ben merci. Du coup, c'était un texte de Alexandre...
Marius Jacob.
Marius Jacob. Pourquoi j'ai cambriolé ?
Il est disponible dans, il doit être disponible, il est disponible sur Info Kiosque. Il y a un livre aussi qui a été édité avec plusieurs textes.
Ok, à checker du coup. Merci. Il y a qui arrive. Alors comment ça se passe cette discussion?
C'est incroyablement sérieux en fait. En fait, moi, je disais tout à l'heure que j'adore quand les gens ils taffent. Et là, ça taffe sec, putain. Du coup, je suis contente. Il y a blindé de rencontres. Il y a des familles de victimes qui sont présentes. Il y a des gens qui sont assez activistes qui sont présents. Il y a des jeunes qui sont présents. Il y a des gens qui se positionnent pas dans un camp particulier ou dans une lutte particulière qui sont là aussi en train de parler. Et tout le monde se respecte beaucoup.
Pour résumer un peu ce qui se passe à côté. Il y a différentes tables avec plein de gens autour qui discutent, autour de questions qui ont été préalablement choisies. Il y a quoi comme questions sur les tables?
Du coup, donc, l'idée, c'est de réfléchir sur la notion de justice. Parce que c'est bien beau de dire justice pour Adil, mais en fait, il faut savoir ce que ça veut dire, justice. Et il faut réussir à construire notre justice, notre système. Donc, t'en as qui travaillent sur les acteurs, avec qui on a besoin de faire alliance. T'en as qui bossent sur les ressources. Et t'en as qui bossent sur les actions concrètes. Et t'en as d'autres qui font un peu de la philosophie, vraiment, sur la notion de justice tant que telle. Donc, en vrai, si on décide de choisir une action de la feuille action et qu'on regarde des ressources de la feuille ressources et des acteurs de la feuille acteurs, ben, en fait, on peut créer quelque chose.
Et ça tue. Et j'ai deux autres invités. Du coup, vous avez participé un peu à la discussion à côté?
Exactement, oui.
Et comment ça s'est passé?
Ils ont dit, par exemple, créer son propre média. On écoute et on n'a pas le choix, en fait, que de voir ce que les médias nous imposent d'une certaine façon. Et les médias nous manipulent puisqu'ils nous donnent des infos qu'ils veulent nous donner. Et si, par exemple, on prenait ce pouvoir-là et qu'on se l'appropriait d'une certaine façon à pouvoir nous-mêmes, en fait, créer ça, en fait, de manière à ce qu'on puisse instruire nos jeunes, par exemple... Mettre en place des actions pour mieux éduquer les personnes qui n'ont pas les mêmes chances que tout le monde, en fait.
Ouais, il faut créer encore plus d'espace comme ici. Exactement. Et donc, tu écris des poèmes en néerlandais, de ce que tu m'as dit avant.
J'écris des poèmes en plusieurs langues, néerlandais, français, anglais. Donc, je vais vous faire découvrir un univers. Et par après, je vais essayer de traduire ça un peu. Est-ce un slachtoffer? Gewoon een ongelukkig persoon die je tegenzit. Of is een slachtoffer iemand die wordt bedrogen door zijn eigen emoties? Voor mij is een slachtoffer niet alleen iemand die aan de goede kant van de wet staat. Want een dader kan ook een slachtoffer zijn. Ik zie een slachtoffer in ons allemaal. Mijn vader was er een. Mijn moeder was er een. Mijn broers en zussen ook. Ik ben een slachtoffer. Ja, inderdaad. Een slachtoffer van mijn verleden. Maar moet dat daarom mijn toekomst beïnvloeden of bepalen? Nee, want in het leven heeft iedereen opties. Mensen kiezen vaak gewoon voor de verkeerde keuzes. Want als de juiste weg geblokkeerd is, word je dan eigenlijk niet gedwongen om een andere te kiezen. Zelf als je weet dat die tot de dood kan leiden. En soms bid ik dat de dingen beter worden. Want soms lijkt een dag zo lang te duren. Want als 9 op de 10 van de opties voor ons verkeerd zijn, hoe groot is de kans dat we de juiste optie kiezen? En zelf als we voor de juiste optie kiezen, kiest de juiste optie dan ook voor ons. Dus het voelt nog alsof we de verkeerde optie hebben of kiezen. En dat is droevig. Want diegenen die ons moeten helpen en begeleiden en beschermen, zijn juist diegenen die ons het meest kwetsen. Dus wie is het slachtoffer? Want de media helpt zeker en vast niet. We zijn het slachtoffer van een optische illusie. Een materiële wereld die we hopen te bezitten. En als we met elkaar vechten om het meeste geld, bezittingen en likes, wat voor hoop hebben we dan nog? Ik ben een slachtoffer van mijn omgeving. Zij was een slachtoffer van moord. Wij zijn slachtoffers van ons eigen leven. Maar vandaag glimlach ik. Want zolang we kunnen ademen, hebben we een kans. We kunnen het negatieve omdraaien in iets positiefs. Dus we hoeven niet langer slachtoffer te zijn. Want wij zijn overwinnaars. Merci.
Ouh, ouais, bravo, c'était magnifique. En effet, tu n'avais pas menti, tu es né prêt. Tu es né prêt. Moi, je t'imaginais à la lumière de bougies en train d'écrire dans ta chambre, mais il y a un temps super lointain, parce qu'avec cette musique, ça faisait vraiment à l'ancienne. Je ne suis pas du tout néerlandophone, donc je suis très preneuse d'une petite traduction, même si la langue se suffisait à elle-même et que c'était magnifique, même sans traduction.
Je parle en fait par rapport à une personne, on va dire une personne... Donc, qui est une victime en fait, qui est une victime. Est-ce que c'est une personne qui a été trompée par ses propres émotions, ou est-ce que c'est une personne qui est du bon côté de la loi? Parce que même un coupable peut être aussi une victime. J'ai dit en fait, je partageais aussi que même si moi j'ai été une victime, je ne veux pas me mettre dans la position d'une victime, parce que j'ai toujours le choix dans la vie. Quand je vais choisir un choix, est-ce que le choix-là va être aussi le meilleur choix pour moi-même? Parfois, il y a des choix qui ramènent vers la mort, et parfois, il y a des choix qui ramènent vers le bonheur. Je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous guider, pour nous aider, pour nous protéger. Mais pourquoi est-ce que ça se fait que ce sont ces personnes-là qui nous font le plus du mal? Donc, qui est en fait la victime? Parce que les médias n'aident pas. Qu'est-ce qu'on a encore comme espoir? Donc, on vit en fait dans une illusion optique de ce monde matériel. À la fin, je clôturerai avec en disant que moi, je suis une victime de mon environnement et elle était une victime de la mort. Et nous sommes des victimes de notre propre vie. Mais aujourd'hui, je rigole parce que du moment qu'on a de l'oxygène dans nos poumons, on a une chance et on peut tourner une situation négative en positif. Donc on n'a plus besoin d'être des victimes car on est des vainqueurs.
Yes.
Ça n'a pas commencé. Il y a du crump en bas qui va commencer.
Il y a du crump en bas qui va commencer. Et pour finir, il va y avoir une projection de film, d'un film qui s'appelle À nos corps défendants, qui a été réalisé par Yann B. du collectif Désarmons-les. Il est accessible sur YouTube. Si vous voulez faire le matage de films en même temps que nous, il est complètement accessible. On va passer à un dernier son. Dis-moi.
J'allais dire peut-être qu'on peut clôturer avant de lancer le son. Et puis j'aimerais bien aussi remercier encore pour la P-Box qui nous a
aidés aussi à faire toute l'install entre les ondes, ça se serre les coudes. On va passer NWA, Fuck the Police, pour bien conclure notre round, et on passe l'antenne aux copains de Radio La Linière, et du coup restez branchés, ça va être bien chouette. Et quant à nous, on vous fait des bisous. 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 Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I